Féroé Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur VOA Afrique, voafrique.com. Eric Manirakidza et Lionel Runanira Gaïma avec vous. Bienvenue à cette édition de ce mardi 5 avril 2016, dont voici les points saillants. Dans le pays de Sassou-Nguesso, la population fuit massivement le sud de Brazzaville, théâtre de violence.
Hier, les populations qui continuaient à quitter les quartiers sud, donc théâtre d'affrontement, pour rejoindre les quartiers centre et nord de Brazzaville.
Nguela Ngoussou nous fera le point dans quelques instants.
Ali Bongo tente de freiner l'érosion dans sa majorité après la démission en cascade de 9 députés de son parti.
Et pas de répit pour la société civile tchadienne opposée au cinquième mandat du président Déby. Hier, elle a compté une cinquième arrestation dans ses rangs à 5 jours de la présidentielle.
Cet état de fait confirme la volonté du gouvernement de mettre terme aux valeurs démocratiques au Tchad. La coalition, ça suffit, est indignée par cette attitude tendant à museler la population dans ses aspirations légitimes.
Au Burkina, le bilan des 100 jours du régime post-transition.
La tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout.
Course à la présidentielle américaine, le Wisconsin vote aujourd'hui. Donald Trump place ses derniers pions pour arracher la victoire contre Ted Cruz, donné favori par les sondages.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et le sport, mais d'abord le journal.
Au Congo, la Cour constitutionnelle a validé hier la victoire du président Denis Sassou Nguesso au premier tour de la présidentielle du 20 mars contestée par l'opposition. Le calme est revenu à Brazzaville après les échanges de tirs de lundi entre la police et des individus armés qui, selon la déclaration du gouvernement, étaient des ex-miliciens ninjas, des combattants d'une ancienne faction de la guerre civile dite du pôle entre 1998 et 2003. Pour faire le point, Timothée Donangmaï a joint notre correspondant Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Jusqu'alors, on n'a pas un bilan, mais ce que l'on sait, c'est que le gouvernement a commencé à dresser un premier bilan concernant les pertes matérielles, donc les commissariats qui ont été incendiés à Mayanga, à Makelekele, à Bakongo. Les sièges des communes de Bakongo et Makelekele également ont été incendiés par les assaillants. Selon les témoignages que nous avons recueillis, on sait qu'il y a des morts. Un policier, un jeune policier a été abattu donc dans la zone de Mafuta et un jeune civil qui serait mort d'une balle perdue.
C'est dans ce contexte que la victoire du président Denis Sassou Nguesso à la présidentielle a été confirmée hier.
Beaucoup de Brazzavillois ont été préoccupés. Même dans la zone favorable au président Sassou Nguesso, il n'y a pas eu des scènes de joie pour saluer cette victoire qui a été confirmée par la Cour constitutionnelle hier soir à Brazzaville.
Notre correspondant Nguela Ngoussou à Brazzaville.
Revenu à Libreville après sa visite à Washington, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a comme sonné le rappel de troupes. Il a reçu hier une centaine de députés du parti au pouvoir après une série de démissions au sein de la majorité. Idriss Fall.
Ali Bongo a rappelé aux députés venus au palais présidentiel que l'heure est au rassemblement. André Diodonébert, président du groupe parlementaire du PDG, lui a assuré que les démissions n'affectent pas beaucoup le nombre de parlementaires qui lui sont toujours fidèles. Le PDG avait près de 113 sièges sur un total de 120 à l'Assemblée nationale. Une grande partie de l'opposition ayant boycotté les législatives de 2011. La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, Guy Nzouba Ndama, avait démissionné avec fracas et pourrait annoncer aujourd'hui même sa propre candidature. Son départ a été suivi par celui de 9 députés qui dénonçaient la destitution de 3 députés frondeurs qui ont créé un courant nommé PDG Héritage et Modernité. Ce courant a annoncé son intention de présenter un candidat face à Ali Bongo Ondimba, qui est lui-même candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue cette année.
Idriss Fall. En Afrique du Sud, le Parlement examine aujourd'hui la procédure de destitution du président Jacob Zuma, discrédité par la décision de justice qu'il a reconnu coupable de violation de la Constitution. Mais sauf coup de théâtre, Jacob Zuma devrait cependant survivre à un vote. Son parti, le Congrès national africain ANC, qu'il a officiellement soutenu dans cette nouvelle tempête, dispose d'une écrasante majorité à l'Assemblée nationale.
Human Rights Watch appelle à la libération immédiate d'une trentaine d'enfants détenus en République démocratique du Congo et qui sont obligés de cohabiter avec des prisonniers adultes. L'Organisation de défense des droits de l'homme américaine accuse Kinshasa de les détenir illégalement dans une prison de haute sécurité dans le nord-ouest du pays. Jacques Aristide.
Ces enfants, selon Human Rights Watch, appartiennent à un groupe de 262 ressortissants congolais, rwandais ou burundais, accusés d'appartenir au mouvement rebelle Hutu-Rwandais FDLR, arrêté dans l'est de la RDC entre février et juin 2015. Au nombre d'au moins 29, ils sont maintenus par l'armée congolaise dans de rudes conditions, toujours d'après l'ONG, dans la prison militaire d'Ankenga, établissement coupé du monde dans une zone de forêt marécageuse dans la province de la Mongala. Hormis ces mineurs, l'ONG exhorte les autorités à également libérer un groupe d'adultes qui n'ont commis aucun crime et inculper d'autres détenus de manière équitable. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du gouvernement congolais a qualifié d'impropre le terme de détention utilisé par l'ONG, Lambert Mende affirmant qu'il s'agit plutôt d'un centre de tri. Ce sont, dit-il, des ex-combattants qui ont opéré dans un groupe armé hostile à la RDC et qui sont en route pour leur pays respectif, faute d'avoir un titre de séjour régulier.
La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, l'ONUSI, envisage de se retirer définitivement du pays en juin 2017. Le dernier rapport de Ban Ki-moon indique que la mission va accélérer la réduction de sa taille. Cependant, le sort de la force de réaction rapide reste à déterminer, précise le rapport. Il suggère qu'elle pourrait rester un outil pour la paix et la stabilité régionale et être mise à la disposition des missions de l'ONU au Libéria ou au Mali voisin.
Manifestation ce lundi à Freetown, des centaines de survivants d'Ebola contre l'inaction du gouvernement en Sierra Leone. Ils revendiquent la gratuité de frais de santé et de bourses scolaires pour les enfants.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs, dans le monde présidentiel américain, le Wisconsin vote ce mardi dans une primaire républicaine. Donald Trump a battu hier une campagne effrénée pour éviter une défaite face à Ted Cruz, donné favori. Morgan Guiriec a les détails.
Le Wisconsin n'accorde que 1,7% des délégués pour l'investiture républicaine. Selon les derniers sondages, Ted Cruz, sénateur ultra-conservateur du Texas, est en tête avec 40% contre 35% à Donald Trump. John Kasich, gouverneur de l'Ohio, est crédité d'environ 18%. Monsieur Cruz, héros du Tea Party, bénéficie du soutien du gouverneur Scott Walker, qui ratisse large dans les banlieues de Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Une victoire de Cruz ne va pas pour autant bouleverser la donne. Pour le moment, il a gagné 8 consultations et 466 délégués, alors que Trump s'est imposé dans 20 États, remportant 739 délégués. Pour décrocher l'investiture, il leur faudra atteindre 1237 délégués. Donald Trump peut se rassurer avec New York, son fief, qui vote le 19 avril et fournit une pluie de délégués. Il est aussi très populaire en Pennsylvanie, qui vote le 26 avril. Ce sera la dernière ligne droite en mai jusqu'aux primaires du 7 juin, avec la Californie en prime.
Il faut aussi noter que les candidats démocrates Bernie Sanders, le sénateur du Vermont, et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton ont finalement convenu à débattre ce jeudi à Brooklyn, c'est dans l'État de New York, Lionel.
Eric, à propos du système électoral ici aux États-Unis, la Cour suprême à Washington a infligé ce lundi un lourd revers aux conservateurs qui souhaitaient bouleverser les règles de découpage électoral aux États-Unis pour limiter l'influence des Hispaniques et favoriser la population majoritairement blanche. L'arrêt rendu lundi par la Haute Cour représente donc une victoire pour les associations de défense de minorités qui s'étaient largement mobilisées pour défendre le statu quo. Il s'agit aussi d'un échec des républicains face aux démocrates.
Il faut aussi noter, Lionel, que la nomination du 9e juge bute encore les républicains qui ne veulent pas organiser un vote. Augmentation en 2015 des dépenses militaires dans le monde après 4 années de recul. L'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, l'explique par la multiplication des tensions. Les chiffres ont atteint 1676 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année. Les États-Unis restent le pays qui dépense le plus de très loin, un budget de 596 milliards de dollars.
Paradis fiscaux, dans la foulée de révélations de l'opération Panama Papers, plusieurs pays ont ouvert des enquêtes pour le blanchiment de l'argent. Ceci lève le voile sur un vaste système d'évasion fiscale impliquant les hauts responsables politiques, sportifs ou milliardaires.
La police turque a arrêté hier dans le sud du pays deux kamikazes présumés présentés comme des membres du groupe État islamique. L'un des deux était recherché depuis l'attentat qui a tué quatre touristes à Istanbul le mois dernier. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Muniteco avec Timothée Donangmaï.
Projet apicole en faveur de quelques 3000 femmes des localités maliennes de Sikasso, Koulikoro et Ségou. Étalée sur 2 ans, cette initiative, d'un coût de 550 000 dollars, soit 275 millions de francs CFA, est le fruit d'un partenariat entre l'Agence des États-Unis pour le développement international, l'USAID, l'ONG néerlandaise ICCO Coopération et Olvea Burkina Faso, une entreprise privée spécialisée dans la production de beurre de karité. Le projet permettra à des coopératives de femmes de produire 70 000 litres de miel ainsi que 20 tonnes de cire sur 2 ans. Retour de manivelle contre le conglomérat des Gupta, industriel sud-africain d'origine indienne réputé proche du président Jacob Zuma, 3 compagnies sud-africaines, KPMG, Barclays Afrique et la banque d'investissement Sasfin ont décidé de mettre fin à leurs relations d'affaires avec des entreprises du groupe. Le président Zuma a démenti à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles les Gupta exerceraient une influence indue sur lui. Ici aux États-Unis, bonne nouvelle pour les travailleurs de Californie. Jerry Brown, le gouverneur de cet État, a promulgué lundi une loi faisant passer le SMIC de 10 dollars l'heure à 15. Le SMIC fédéral fixé à 7,25 dollars n'a pas changé depuis 2009.
C'était la Muniteco. Merci Timothée. Nous enchaînons avec votre page sportive avec Nicolas. Bonjour Nico.
Et bonjour Eric.
Commençons par le football. En sport aussi, on ne parlait que des Panama Papers et notamment la star Lionel Messi qui réagit.
Oui, suite aux révélations d'un ensemble de médias internationaux qui ont dévoilé comment de nombreuses personnalités profitent du système de comptes offshore dans des paradis fiscaux, la famille Messi assure dans un communiqué que les accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent sont fausses et diffamatoires. La famille rappelle également que la situation de l'attaquant du FC Barcelone a été régularisée auprès du fisc espagnol. Pour la famille de l'Argentin, ces accusations portent un préjudice irréparable à Lionel Messi. La composition des deux groupes de la Ligue africaine des champions sera connue le 24 mai prochain, date à laquelle la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort. Le tirage au sort de l'autre compétition, le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, aura lieu le 21 avril. On rappelle que ce tour de cadrage opposera les qualifiés de l'épreuve aux clubs reversés de la Ligue des champions.
Et puis Nico, Wilfried Bonny, l'attaquant de Manchester City, intéresserait Everton.
Pisté par West Ham, l'attaquant international ivoirien est sous contrat jusqu'en juin 2019 avec les Citizens. Mais selon le Daily Mirror, le joueur de 27 ans aurait été ciblé afin de compenser un éventuel départ du Belge Romelu Lukaku lors du mercato d'été. On se souvient qu'en janvier 2015, City avait déboursé un peu plus d'une trentaine de millions d'euros pour recruter l'ivoirien.
Enfin Nico, un mot sur le basketball. L'événement de ce lundi était la grande finale entre Villanova et la Caroline du Nord. Villanova a levé le suspense à quelques tiercés de la fin du match en marquant les 3 points de la victoire. Alors que les deux équipes étaient à égalité 74-74 à 4 secondes avant la fin du match. Villanova est donc sacré champion. Dans le championnat universitaire de basketball masculin aux États-Unis, c'est dans ce championnat que la NBA recrute les talents. Il faut noter aussi que les matchs de la NBA reprennent aujourd'hui après la pause d'hier. Oh, bonjour à vous tous qui êtes à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission. Au Tchad, à 5 jours de l'élection présidentielle du 10 avril prochain, le pouvoir continue à traquer les leaders de la société civile, hostile au cinquième mandat du président sortant Idriss Déby Itno. En cinquième porte-parole de la plateforme « Ça suffit », Dr Albissati Saleh Alazam a été arrêté ce lundi par la police. Cette situation amène les organisations de la société civile à durcir leur position et maintiennent leur marche pacifique de ce mardi 5 avril 2016. Le point avec André Kodmajingar.
Il lui a été reproché d'avoir participé à la rédaction et à la diffusion des informations appelant à la marche pacifique de ce mardi 5 avril 2015. Dr Albissati Saleh Mahamat, porte-parole de la coalition Ça suffit, est gardé à vue dans le locaux de la police judiciaire. Il risque de rejoindre les 4 prévenus à la maison d'arrêt. Cette interpellation a occasionné une sortie médiatique de son organisation ce lundi midi à la Bourse du Travail. Bertrand Solo Ngandjei est l'un des porte-parole de la coalition Ça suffit.
Fait confirme la volonté du gouvernement de mettre terme aux valeurs démocratiques au Tchad. La coalition Ça suffit est indignée par cette attitude tendant à museler la population dans ses aspirations légitimes. Nous demandons la libération sans condition de nos porte-paroles, désormais passés de 4 à 5.
Bertrand Solongandjei informe par ailleurs que la marche pacifique de ce mardi 5 avril est maintenue.
Nous informons la population que la marche pacifique dite pour l'alternance démocratique des libertés d'expression et des droits de l'homme prévues demain 5 avril 2016 est maintenue. Nous réaffirmons le caractère pacifique de la marche. La coalition demande à la population de ne pas céder à la provocation de la police. Nous mettons en garde les forces de l'ordre contre toute répression des manifestants à main nue.
Selon les autorités en charge de la sécurité publique, la marche pacifique prévue pour ce mardi est strictement interdite.
Les demandeurs de la marche n'ont pas rempli les conditions nécessaires pour obtenir une autorisation de marche. Nous sommes en période exceptionnelle. En vertu de quoi ils doivent marcher?
Ahmad Mahamad Bachir, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, met en garde tous ceux qui tenteraient de narguer l'autorité de l'État.
Nous avons reçu une demande et nous avons regardé les textes en vigueur de la République, notamment la Constitution et les textes relatifs aux libertés publiques. Et nous avons estimé que cette marche ne peut pas avoir lieu. D'où nous avons pris un arrêté pour l'interdire. Et personne n'est au-dessus de la loi pour frayer ou marcher, piétiner les textes de la République. Les forces de sécurité sont instruites pour l'exécution intégrale du contenu de cet arrêté. Dans une République, il y a des gens qui respectent les textes, d'autres non. Mais celui qui tombe sous le coup de la loi doit répondre à ses actes.
Vu la détermination des organisations de la société civile et celle des autorités en charge de la sécurité publique, le pire est à craindre. André Kodumadjingar Ndjamena, La Voix de l'Amérique.
VOA Afrique, Ndjamena, au Tchad, 24 heures sur 24, 93.1 FM.
L'ONU a prorogé fin mars le mandat de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, d'un an. En outre, le Conseil de sécurité, qui est passé outre la proposition du secrétaire général Ban Ki-moon d'une modeste réduction de 1 700 soldats de cette mission, a appelé les autorités congolaises à organiser dans les délais des élections libres et crédibles. Pour une analyse de ces prises d'opposition onusiennes, Timothée a joint ici à Washington l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
Le Conseil de sécurité ne doit pas parler des élections, mais ils ont dit qu'il faut absolument faire des élections selon la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut avoir une élection présidentielle en novembre 2016. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'élection, comme nous avons peur maintenant qu'il n'y aura pas d'élection, les Nations Unies peuvent faire des sanctions contre le gouvernement de Kabila. Deuxièmement, comme vous venez de dire, ils ont refusé de réduire le nombre de casques bleus qui sont là pour protéger les gens dans le civil. Ça veut dire que S'il n'y a pas d'élection, s'il y a toujours le glissement, il y a un danger de violence. Donc, il faut que les soldats des casques bleus restent là pour protéger les gens qui manifestent. Un troisième message, il y a un danger que s'il y a de violence, il y aura des réfugiés qui vont partir pour des autres pays, surtout l'Angola. Et les autres pays dans la région ont peur. Donc, ils ont encouragé le Conseil de sécurité de faire cette résolution. Donc, je dis à votre audience que c'est une résolution très importante. Ce n'est pas banal.
Sur quoi sont fondées les craintes que vous venez d'évoquer?
Vous vous rappelez peut-être quand président Kabila, en 2014, a annoncé qu'il y aura un référendum pour changer la Constitution. Mais ça a déclenché beaucoup de manifestations partout dans le pays. Il y avait des morts parce que la police et les soldats ont tiré sur les gens. Et président Kabila a décidé de ne pas faire un référendum pour changer la Constitution. Donc, ça montre qu'il y a des sentiments très importants, que les gens veulent que la Constitution soit faite, c'est-à-dire qu'il y aura des élections.
L'opposition de la RDC redoute que le président Kabila se maintienne au pouvoir au-delà de la fin de son mandat. Mais à ce jour, le président Kabila n'a pas dit qu'il sera candidat à la présidentielle.
La date limite, je crois que c'est le 20 décembre, quand son deuxième mandat est terminé. Il peut toujours dire, bon, mon mandat est terminé et le président en exercice sera le président du Sénat. C'est toujours possible. Bien sûr, il n'a rien fait contre la Constitution jusqu'à maintenant, mais il faut préparer des élections. Et je crois qu'ils n'ont pas encore commencé à préparer. Et le président de la Commission sur les élections venait de dire récemment que ça va prendre un minimum de 15 mois. Nous sommes déjà en avril et 15 mois d'ici, c'est en 2017. Donc, tout le monde croit que c'est une raison d'avoir peur. Il y aura un grand délai et que la vraie raison pour le délai, c'est que M. Kabila ne veut pas quitter la présidence.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires africaines.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les États-Unis ont annoncé hier le transfert au Sénégal de deux Libyens, Salem Abdoussalam Guerebi et Omar Halif Mohamed Abou Bakr Marour Oumar, qui étaient détenus à la prison de Guantanamo depuis 14 ans. Maintenant, il reste 89 détenus dans cette prison controversée qui a accueilli près de 800 personnes sans aucun procès ni inculpation. Pour une réaction, Idriss Fall, adjoint à Guantanamo, Reed Brody, directeur Afrique de Human Rights Watch.
Il reste 89 personnes. Il y avait à un moment donné presque 800, 779. Le reste ont été peu à peu libérés. Mais en fait, il y a des personnes comme ces deux Libyens qui sont à Guantanamo que même le gouvernement américain a estimé ne représentent plus un danger pour la sécurité, mais qui n'ont pas pu être libérés parce que leur pays d'origine, que ce soit la Libye ou autre, ne peut pas les accueillir pour une raison ou pour une autre.
Le Sénégal, qu'est-ce qu'il obtient en échange?
Ça, on ne le sait pas. Il y a certainement des considérations. Je pense que c'est d'abord une geste humanitaire qui donne à ces hommes la chance de commencer une nouvelle vie, qui aidera à guérir le mal causé par 14 ans de détention injuste. Il y a beaucoup d'autres pays qui ont accepté d'accueillir des anciens détenus de Guantanamo, l'Allemagne, la France, le Ghana, il y a deux mois, qui a accepté deux personnes de Guantanamo. Donc, je pense que les pays qui sont attachés aux droits humains, les pays qui sont attachés aux principes de l'état de droit, aident en fait les États-Unis, aident Obama à réparer ce mal.
Obama avait promis en 2009, quand il est arrivé au pouvoir, qu'il allait fermer Guantanamo. Et là, il lui reste moins d'un an. Est-ce que vous pensez qu'il arrivera à respecter sa promesse?
Non, je ne crois pas. Les républicains l'empêchent. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, un problème politique, c'est que le Parti républicain n'accepte pas que ceux qui ne peuvent pas être envoyés dans un tiers pays soient envoyés même dans un prison des États-Unis. Mais pour nous, ça ne résoudra même pas le problème, parce que même l'administration Obama n'envisage pas de libérer tout le monde. Même le plan Obama ne consiste que à transférer les personnes de Guantanamo vers des prisons américaines, mais pas de les juger. Et ça, c'est le problème. Pour nous, Guantanamo est une débâcle historique, politique et juridique. Les personnes doivent être soit jugées, soit libérées.
Reid Modi, directeur Afrique de Human Rights Watch.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
C'est exactement dans 24 heures que le nouveau président du Faso, Roch Kabore, va boucler ses délais de grâce, 100 jours à la tête de l'État burkinabé. Mais M. Kabore a préféré anticiper. C'est à l'occasion de la clôture de la Semaine nationale de la culture qu'il a présenté son bilan des 3 mois. Ce 6 avril, date de son entrée officielle en fonction, le président pourrait ne pas célébrer cet événement au pays. Il se trouve toujours en France dans le cadre de sa première visite officielle. Zoumana Wonogo pour les détails.
La première préoccupation du nouveau pouvoir est le passage à une 5e république. Et Roch Kabore, le président du Faso, explique.
La commission constitutionnelle va être mise en place bientôt. Et l'objectif de cette commission est de discuter des réformes, politiques, qui nous permettent de passer à une 5e république. Je ne voudrais pas débattre l'iguane dans l'eau. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la limitation du mandat, c'est une question sur laquelle il est impossible de revenir. Ce que je voudrais dire également, c'est que la deuxième chambre qui apparaissait comme le Sénat est définitivement supprimée. Ce que je peux dire également, c'est que la tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout.
Depuis son départ du premier ministère, beaucoup de choses se disent sur le compte du général Yacouba Isaac Zida. Que faire, suivant le président du Faso, Roch Marc-Christian Kabore.
La commission constitutionnelle va être mise en place bientôt. L'objectif de cette commission est de discuter des réformes, politiques, qui nous permettent de passer à une 5e république. Je ne voudrais pas débattre l'iguane dans l'eau. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la limitation du mandat, c'est une question sur laquelle il est impossible de revenir. Ce que je voudrais dire également, c'est que la deuxième chambre qui apparaissait comme le Sénat est définitivement supprimée. Ce que je peux dire également, c'est que la tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout.
Une autre préoccupation majeure est cette affaire de mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, le président de l'Assemblée de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement burkinabé a dit privilégier la voie diplomatique. Est-ce donc la fin du mandat contre Guillaume Soro, suivant ce qu'en dit Roch Marc-Christian Kabore?
Je pense que les mandats d'arrêt, jusqu'à preuve du contraire, sont en vigueur. Nous avons dit que nous explorons évidemment la voie diplomatique pour régler cette question, parce que nous pensons qu'au-delà des mandats d'arrêt, les mandats d'arrêt qui sont adressés soit des Burkinabés ou au président de l'Assemblée, Guillaume Soro, ne doivent pas altérer, et c'est ce sur quoi nous travaillons, les rapports d'amitié et de fraternité qui existent entre le peuple ivoirien et le peuple burkinabé. Et je peux vous dire donc que malgré tout cela, les rapports sont excellents.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Afrique.